marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Interrogeons l'histoire, cherchons partout lumière et vérité.
Miro, un feu dans les ruines.
Et commençons tout de suite par cette exposition Miro, une grande rétrospective Miro organisée au Grand Palais.
Miro, qui a été très touché naturellement par cet hommage qui coïncide avec ses 80 ans, Miro a vu l'espace et s'est enfermé pratiquement pendant près de 2 ans sans voir personne et a travaillé avec une espèce d'héroïsme et de générosité, je dois dire, à tous les sens du mot, bouleversante.
Et là, il se présente en somme comme un jeune peintre.
C'est cette année la deuxième exposition Miro au Grand Palais, la première, vous en avez entendu écho avec Mourouzi, avait eu lieu en 1974, au lendemain donc de ses 80 ans. Jacques Dupin, qui avait travaillé de très près avec lui, disait que Miro faisait le désespoir des biographes tant il avait mis tous ses soins à vivre à l'abri de l'anecdote et du pittoresque. C'était un homme à ranger ses tubes de peinture toujours dans le même ordre, à étiqueter tous ses flacons, et il renforçait l'image de régularité qu'il renvoyait en opposant de longs silences à qui aurait voulu en savoir trop. En réalité, la discipline qu'il s'imposait était sa manière de lutter contre la tentation de l'enlisement qu'il habitait. Sa méthode était de remonter sa pente, mais sans la quitter. L'instinct demande à être dressé par la méthode, mais l'instinct a d'abord aidé à découvrir la méthode. Après la guerre, on sait qu'il connut une renommée mondiale, son activité se démultiplia. Il laisse 3 fondations à Barcelone, à Palma et à Montroi, en Catalogne, je le prononce à la française. Mais là encore, il faut dépasser les apparences. Au plus haut du triomphe du fascisme, il s'était réfugié à Majorque, n'imaginant certes pas qu'il pourrait plus tard y faire construire son fameux grand atelier. Et il s'était préparé au silence de la clandestinité. « Quand les moyens de travail manqueront, disait-il, j'irai sur la plage et j'utiliserai un roseau sur le sable. Ou bien, ajoutait-il, je dessinerai en pissant sur la terre sèche. » C'était un peintre tellurique. Combien de fois n'a-t-il pas répété qu'il gardait les 2 pieds dans la terre catalane pour mieux bondir vers le ciel ? C'était aussi un peintre du ciel. Je dessinerai dans l'espace vide le mouvement et le chant des oiseaux. Il prévoyait toujours, en ce début des années 40, que tout cela serait ensuite emporté par le vent. Prévision, heureusement, démentie. Le feu est dans les ruines et il ne faut pas nourrir les chiens noirs de la mélancolie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Rémi Labruce, bonjour.
Bonjour.
Très beau livre, original, d'un ton nouveau, chez Azan, Le feu dans les ruines. J'ai emprunté le titre de l'émission à votre livre. Vous appartenez depuis longtemps à la petite famille Miro, et notamment par l'intermédiaire de ce poète que je citais d'entrée de jeu et qui était si proche de Miro, Jacques Dupin.
Oui, c'est vrai que l'une des caractéristiques de Miro, c'est qu'il a été très proche des poètes depuis très longtemps. C'est une sorte de compagnonnage qui pour lui a été fondateur et celui qui a finalement le plus travaillé avec lui, c'est Jacques Dupin, jusqu'à sa mort il y a quelques années. Et c'est une caractéristique assez rare finalement d'avoir son œuvre construite, parce que Dupin avait fait son catalogue raisonné, par un poète, mais un poète qui se met au service du peintre. C'est pas le peintre qui est au service du poète, comme c'est souvent le cas dans une tradition littéraire européenne. Là, c'est vraiment le poète qui a accompagné le peintre et qui l'a poussé d'abord à la création, puis ensuite qui a montré son œuvre puisqu'il a fait son catalogue.
Votre livre est un livre de poète, mais vous savez, moi, je vais ranger les tubes, étiqueter les flacons, imposer un ordre chronologique avec la question banale. C'est un catalan à 100%. Enfin, c'est une formule d'ailleurs qu'il reprenait.
Ouais. Comment ça commence, quoi? C'est sûr que ça commence en Catalogne, il n'y a aucun doute. Et que quand on est catalan, j'ai l'impression en tout cas que quand on est catalan à la fin du 19e ou début du 20e siècle, on l'est de toute façon à 100%. Parce que c'est un moment où la Catalogne prend conscience d'elle-même, où la langue se revivifie, la langue catalane, et où donc l'identité de toute une culture multiséculaire essaye de se mettre au présent et de s'affirmer. Donc de toute façon, catalan, ça veut dire catalan à 100%.
Ouais. Ça passe par le port de Barcelone, avec sa fortune singulière dans l'histoire de l'Europe. Ça passe par le commerce. Son père est un commerçant qui a bien réussi. Mais pour lui, la figure du catalan, c'est le paysan.
Oui, alors, bien réussi, il ne faut pas non plus trop exagérer. C'est-à-dire que c'est une vraiment classe moyenne, quoi. Mais ce sont des gens qui ont des racines artisanales, pas paysannes, mais artisanales. Et donc, qui sont pas, disons, barcelonais, même s'il a grandi à Barcelone, bon, comme nous, on peut grandir à Paris, il a des racines soit à Palma, donc dans les au Baléares, soit dans le sud de la Catalogne, à Tarragone. Et là, vraiment, il y a un contact, effectivement, avec cette paysannerie qui est la fierté du peuple catalan, quoi.
Premier tableau, on le voit bien sûr à l'exposition du Grand Palais, premier tableau fameux, c'est la ferme, enfin qui n'est pas une ferme appartenant à la famille depuis longtemps, qui a été achetée par le père une fois qu'il a mieux réussi. Tentative de description de la ferme par Pierre Descargues, interrogeant en 1974 Miro.
La Catalogne, c'est capital pour moi, la Catalogne. La Catalogne est concrètement Tarragone et la Riblomé de Paris. Voilà, c'est le pôle capital de mon œuvre.
Oui, mais peut-être vous nous décrivez une maison, votre maison, ou bien une maison que vous avez bien aimée.
Oui, ma maison, c'est une propriété que mon père avait jetée quand j'avais 18 ans. Alors, à partir de cette époque-là, moi, je l'ai tout le temps. Et même quand j'habitais à Paris, j'ai resté 6 mois à Paris et 6 mois à Montrouge. Je n'ai jamais perdu le contact avec Montrouge.
Vous voulez pas nous la décrire, cette maison? Dites-nous comment elle est.
Ah oui, la maison, c'est une maison en bourgeoise, mais d'une très grande beauté.
Bien sûr, mais comment elle est? Elle est en pierre?
Construite, d'une très grande beauté.
Oui, elle est en pierre avec un toit comment?
Ah oui, les murs sont peints en blanc, avec de la chaux. Alors, ça se dégage du ciel bleu, ça c'est magnifique. Il y a des arbres magnifiques, il y a des eucalyptus, il y a les potagers, tout ça, c'est très très beau.
Et puis, il y a un endroit pour les chevaux, peut-être?
Oui.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a un puits, sans doute?
Oui, il y a un puits, oui.
Et qu'est-ce qu'on voit encore? Il y a des palmiers, peut-être?
Il y a des palmiers, oui. Il y a des palmiers, surtout des eucalyptus.
C'est ce tableau de la ferme que vous venez de décrire vous-même, Jean Miro, hein?
Alors, la ferme, c'est à Montreuil. Je le prononce à peu près comme Miro. Il ne faut pas voir ça comme une terre d'enfance. C'est une des originalités de votre livre, Rémy Labrusse, que d'insister sur le choc extraordinaire, prémonitoire, primitif, qu'un été dans cet endroit, en 1911, a provoqué comme une résurrection chez Miro.
Oui, oui. Miro, c'est un moderne, hein, c'est quelqu'un qui, comme nous, vit dans les villes, au bout du compte, et donc la campagne, il la découvre effectivement à 18 ans. Alors c'est un peu exagéré, il avait des moments d'enfance à la campagne aussi, mais c'est cette ferme qu'il décrit comme très belle, je trouve ça génial, parce que c'est beau, mais bon, voilà, on n'est pas au château de la Belle au Bois Dormant, du tout.
C'est vraiment c'est les murs pleine... de pierre.
J'en sais rien, parce que c'est recouvert de chaux blanches, effectivement, comme il le dit. C'est une maison bourgeoise fin 19e, et sur une plaine assez austère au bout du compte, c'est-à-dire c'est très très plat, c'est entre la mer et les collines, mais c'est ni au bord de la mer, ni dans les collines. Ça n'a rien de pittoresque en fait. C'est vraiment l'endroit où on travaille la terre, où on s'enracine, où on se met les mains dans la glaise. Ce qu'il n'a pas fait, mais ce qu'il a regardé, vécu, ce qu'il a senti résonner en lui.
C'est la terre qu'il travaille.
Il la travaille pas du tout,
travaille.
Oui, voilà, exactement. C'est la terre qui le travaille, lui. C'est là où il a besoin, effectivement, d'avoir cette espèce de rencontre avec la réalité qu'il n'a pas dans les villes. Toute sa vie, comme il le dit, ça c'est totalement magnifique, parce que c'est pas non plus vrai chronologiquement. Il dit 6 mois à Paris, 6 mois à Montreuil. Évidemment, c'est faux. Ça marche pas aussi clairement. Mais il y a cette espèce de dualité absolument tranchée chez lui entre le monde de l'imaginaire qui est Paris, ou qui est la ville, disons, hein, et puis cette réalité vibrante, quoi, intérieure, en fait, qu'il va retrouver en Catalogne.
Paris, premier séjour, c'est une habitude chez les artistes catalans. Picasso l'a précédé de quelques années, en 1920. Et Paris, vous présentez l'expérience qu'il y vit comme un élargissement.
Alors, élargissement, c'est-à-dire qu'en fait, il a vécu Paris déjà à Barcelone, parce que Barcelone est absolument ouvert vers Paris, quoi. C'est-à-dire c'est plus ouvert vers Paris que vers Madrid ou vers n'importe quelle autre ville, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a cette espèce de cordon ombilical, de passage constant de signes culturels, de littérature, de musique, de peinture, qui fait qu'il connaissait déjà Paris avant d'y être allé. Mais quand il y arrive, c'est comme si le rêve devenait réalité. Donc, effectivement, c'est un élargissement. Et c'est un élargissement surtout parce que il y rencontre concrètement, il y noue des amitiés qui sont des amitiés formatrices en fait pour lui.
Et quand on lui demande quelles amitiés il a nouées pendant son premier long séjour rue Blomet, 1922-1926, rue Blomet dans le 15e arrondissement, c'est une étoile de la constellation d'un mot important chez Miro, surréaliste. Et ben aussitôt, il répond des poètes.
J'ai beaucoup fréquenté les poètes. Alors, en même temps que les poètes, ils me parlaient de grands poètes. Et à ce moment-là, j'ai senti le besoin de dépasser la peinture, d'aller beaucoup plus loin que la plastique pure.
Ces poètes, c'étaient les surréalistes?
Oui, les surréalistes, oui. Et en même temps, je lisais tous les grands poètes, Jarry, Nouveau, Lautréamont, Rimbaud. Alors, c'est cette atmosphère-là qui m'a fait changer, oui.
Ce qui fait qu'on pourrait dire que cette réunion de la rue Blomet a eu des conséquences alchimique, presque.
Ah oui, capital, oui, une importance capitale dans ma vie, oui.
Et tout ça un peu grâce à Masson.
Oui, oui, parce que Masson, à ce moment-là, était mon voisin, et c'est par lui que j'ai connu tous les poètes.
Quand vous étiez voisin, vous communiquiez
Ah oui, parce qu'il y avait un trou dans le mur.
Ah bon?
Miro, très propre, très... L'ordonnien avait mis un petit rideau garni de dentelle de son côté. Je ne pensais pas gagner son atelier. Que j'étais violent, oui, bien sûr. On était souvent dans les postes de police.
Vous battiez?
Ah oui. C'était déchiré.
André Masson, très vieux, 1982. Mais déjà, il paraît beaucoup plus vieux que les autres de son groupe, alors qu'il a le même âge au début des années 1920. Parce que il a fait la guerre, il a fait Verdun. Le surréalisme pour lui est né de l'expérience de Verdun. Il fait figure de maître.
Oui, complètement. Alors qu'il est même plus jeune, en fait, que la
il
plupart de,
jeune.
Ses, oui, de ses amis, plus jeune que Miro, nettement plus jeune. Mais c'est vrai qu'il a en lui les stigmates, mais au sens quasi mystique du terme, de la guerre qu'il a faite volontairement. Il y est allé alors qu'au départ, il s'était exilé en Suisse, justement pour ne pas la faire, et puis il veut y aller pour voir l'horreur en face, en quelque sorte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a vu. Ce que je trouve fantastique dans cette archive, c'est que, vous voyez, en 82, bon, voilà, ils sont très très vieux, ils se souviennent... Miro, c'est la même chose. Hein. Il a parlé de la rue Blomet en 77. Il était pas loin de. Enfin, c'était vraiment la fin, les dernières années de sa vie. Et ils se souviennent des moindres détails, comme si c'était une sorte d'hallucination qui s'était imprimée dans leur esprit. Un moment initiatique, en fait. C'est une épreuve initiatique. C'est un passage. C'est des jeunes gens, tout jeunes gens. Et vous disiez surréaliste, mais c'est le surréalisme avant le surréalisme. Le surréalisme n'existe pas. Le mot n'existe pas. On est entre 1921 et 1926. Bon, Breton s'accroche au wagon. Il s'accroche au wagon à partir de la fin de l'année 24 et au début de 25.
Et puis, dans la très courte archive de Masson qu'on a entendue, ce qui est assez drôle, c'est le rapprochement du mot « ordre » et du mot « violence ». On se bagarrait, on était souvent au poste de police, et en même temps, je faisais le ménage chez Miro, qui ne supportait pas le moindre grain de poussière et qui voulait qu'il y ait une place intangible pour chaque objet sur sa table.
Oui, Miro est un obsessionnel, ça c'est clair. Hein, effectivement, il a une épreuve, enfin, disons un rapport hallucinatoire avec la réalité. Donc, en effet, le moindre grain de poussière, pour lui, c'est un événement cosmique. Hein. Donc, après, où il le cultive, comme du champ, ou il l'éradique absolument, mais effectivement il est obsessionnel. Là, ce qui est très juste dans ce qu'il dit d'ailleurs lui aussi, c'est ce côté très existentiel en fait. Hein, c'est-à-dire que en fait l'œuvre se fait dans les attitudes. Alors on se bagarre, mais on se bagarre surtout avec soi-même. Et ce qui impressionnait beaucoup le groupe, comme on le disait, de la rue Blomet et donc Miro au tout premier plan, c'était le côté autodestructeur de Masson qui détruisait ses toiles, par exemple. exemple, à coups de couteau. Alors Miro, lui, c'est pas son genre, mais par contre, il avait des pratiques comme ça de monter aux extrêmes par la faim, en fait. C'est-à-dire par la faim, F-A-I-M, c'est-à-dire l'absence de nourriture. C'est-à-dire qu'il se nourrissait, je sais pas qu'il était anorexique, bon, il était pauvre, d'une part, mais bon, ça, il avait encore de quoi s'acheter du pain, et il le faisait pas pour parvenir à l'hallucination. Et à ce moment-là, donc, un certain nombre de ses tableaux montrent les murs de son atelier, qui était une espèce de baraque sordide, hein, s'animer de figures imaginaires qui sont comme des sortes de monstres paléolithiques, vous voyez, qui sortent d'une grotte, quoi.
Vous employez le mot monstre, alors je sais pas si c'est le moment de parler de l'érotisme des dessins de notre ami Miro, mais Dupin dit, on ne lui connaît aucune passion amoureuse tumultueuse. Et en même temps, vous vous dites, ces dessins sont d'un érotisme tellurique.
Ouais, alors il y a beaucoup de sexe chez Miro, hein, beaucoup, beaucoup. Alors la passion amoureuse, on les connaît un petit peu mieux maintenant qu'à l'époque de Dupin. C'est, Miro était quelqu'un de très secret, mais voilà, les recherches ont fait, notamment des récentes biographies, qu'on connaît mieux sa vie. C'est certain qu'il a un rapport totalement figé, paralysé face à la sexualité, et en même temps, paralysé, ça veut dire fasciné, hein. Donc il y a énormément de sexe, mais c'est un sexe qui, alors, en effet, c'est pas érotique. Il y a rien de très sensuel, en fait, hein, dans une peinture de Miro, en tout cas dans la représentation du rapport sexuel, quoi. Mais par contre, il y a quelque chose d'originaire, de primitif, de fondamental, quoi, hein, qui est la différence homme-femme, avec la violence que ça implique, disons, cette espèce de déchirure, c'est le cas de le dire, qui est constitutif de l'humanité et qui est en même temps inacceptable. Et c'est ça qu'il explore tout le temps, hein. C'est cette différence extrêmement radicale et totalement inacceptable, totalement tragique, quoi, finalement.
Dans la constellation qu'on va pouvoir dire maintenant surréaliste, il y avait le groupe de la rue Blomet, non loin le groupe de la rue du Château. Vous ne citez guère dans votre livre, Rémy Labruce, Prévert, mais Prévert a composé ce poème.
J'ai oublié.
En hommage à Miro.
Sur les murs de la ferme, éclaboussés de sang solaire, rageusement, Miro enfant trace en rêvant, d'un doigt lucide, sûr et tremblant, les plans, les fabuleux décors de l'opéra fou de la vie. Fauves et blêmes, les désespérantes métaphores de la vie, de poème de la mort, scandent l'estance de la souffrance et de l'angoisse et de l'ennui. Roman de Féro, Miro grandit, et dans la rivière de diamants, les rondières de la lune, lave les draps de l'insomnie. Roman de Féro, les pays voyagent comme les gens. Au revoir Miro, au revoir enfant, dit le paysage. Et comme le paysage va lui au revoir, plus tard Miro le reverra souvent. Roman de Féro, portes et fenêtres, grandes ouvertes. Miro chez lui, la nuit. Miro ferme les yeux, Miro heureux sourit. Son paysage en rêve entre là comme chez lui. Et dans le miroir de sa tête, Miro revoit le disque rouge à la poursuite de la White. Roman de Féro, Miro se lève. Et sur une toile blanche, avec des couleurs et des pinceaux, peint le tableau. C'est réellement bien moi, dit le paysage. Au revoir, Miro.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Au revoir, Miro. Bah, il va quitter Paris et s'installer longuement, en 1931, Rémy Labruce, en Espagne. Enfin, je veux dire, en Catalogne. Sa réinstallation n'est sans doute pas étrangère. Il y a peut-être des considérations financières, mais à la nouvelle situation de la Catalogne qui retrouve son autonomie.
Bien sûr, oui, bien sûr. Une autonomie qui est tout de suite placée sous le signe de la précarité, du tragique, de la guerre. Puisque très rapidement, la Catalogne devient vraiment le lieu de résistance de l'Espagne républicaine à la montée des troupes franquistes, donc du fascisme. Et donc il y a finalement, aller se réinstaller en Catalogne, c'est un acte de résistance, c'est un acte de construction d'abord, disons, d'une Catalogne internationale, au sens politique du terme aussi, enfin, c'est une Catalogne d'extrême gauche, disons, de gauche puis d'extrême gauche, et puis très rapidement, c'est aussi une Catalogne qui est un rempart contre le pire.
Mais dans cette Catalogne, des courants modernistes, fidèles en cela à la tradition historique de découverte pionnière de la Catalogne, s'étaient inscrits avec notamment cet immense architecte qui va jouer un rôle important dans la vie de Miró, qui est certes
Joseph Luis Sert, à ne pas confondre avec son oncle qui lui était plutôt du côté fasciste justement, va être le grand architecte moderne. C'est intéressant si vous voulez parce que c'est un disciple de Le Corbusier au bout du compte, et en même temps c'est quelqu'un qui à partir des formes totalement modernistes et mécaniques de Le Corbusier essaye de réintroduire de la sensualité, de c'est un mot un peu bête mais de l'humanisme, et donc il va chercher des formes dans l'architecture vernaculaire, l'architecture paysanne. Alors ça, évidemment, ça parle immédiatement à Miró. Et ils vont avoir une amitié qui va durer toute leur vie. Mais ça commence effectivement dans cette Catalogne des années 30. Et puis ensuite, ça se continue à Paris en 37.
Alors 37, exposition universelle. Est-ce qu'il y aura un pavillon de l'Espagne républicaine qui déjà fléchit sous le poids de la guerre? Oui, c'est une détermination qu'affirme justement Certes.
Ce pavillon était un peu un pavillon et une aventure en même temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour le faire. Et ça a été décidé au dernier moment que la République espagnole serait représentée dans l'exposition 37 et qu'il y aurait un pavillon dans les jardins du Trocadéro, qui était évidemment, quand on les voyait, écrasés par les pavillons allemands d'un côté et les pavillons russes de l'autre. Je me rappelle d'une anecdote, c'est qu'on était à côté du pavillon polonais, et un jour, quand on a convaincu Picasso de nous prêter des sculptures qu'on amenait à Paris, il y avait une très belle sculpture d'une femme à la Picasso, n'est-ce pas? Et alors, les personnes en charge du pavillon polonais est venue protester. Je dis pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une ligne claire de démarcation. Ils pouvaient croire que c'était fait par un sculpteur polonais. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Alors, c'était toute une série d'aventures comme ça. Et on a finalement convaincu Picasso, qui a fait le grand Guernica, n'est-ce pas, à l'entrée du pavillon. Notre ancien ami Calder a fait une fameuse fontaine de mercure que tout le monde a admiré. C'était difficile d'introduire Calder dans l'équipe parce qu'il n'était pas trop espagnol. Et alors le commissaire général protestait. On a dit Calder et Calderon sont deux noms à peu près pareils. Il pourrait très bien passer. Finalement, il a passé parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ce qu'il a fait.
Une émission de Pierre Descartes, toujours. C'était encore en 1974, au moment de la première exposition Miró au Grand Palais. Et alors, en 37, exposition universelle à Paris, qu'est-ce qu'il présente dans le pavillon de l'Espagne républicaine Miró? Un paysan, peut-être?
Un énorme paysan qui tient une faucille à la main et qui est en colère. C'est le titre, un paysan catalan en révolte ou en colère. C'est le moment où Miró est le plus politique de toute sa carrière, de toute sa vie, parce qu'il a une mission, qui est, il le dit d'ailleurs aussi dans une lithographie, qui est aider l'Espagne. Et aider l'Espagne, ça veut dire aider la Catalogne, qui à cette époque-là représente l'Espagne libre. Et donc là, il sort de sa tour d'ivoire, comme il le dit lui-même, et il s'engage dans une iconographie qui est quasiment communiste, en fait, avec cette faucille, ce point levé qui est celui de la révolte. Il faut dire aussi que quand il met paysan catalan, ça renvoie à l'hymne de l'indépendance de la Catalogne, qui était El Segadors, les faucheurs, en fait.
Dites-moi, cette phrase que vous citez, qui vient d'un marchand dont vous faites le portrait, un marchand de Miró invraisemblable, Jacques Viot, qui l'a soutenu, mais qui ensuite s'est enfui et perclus de dettes en Océanie. Cette phrase, qui pour vous est fondamentale, s'oppose à la révolution l'homme qui la contient. Pouvez-vous nous l'expliquer?
Oui, c'est-à-dire que chez Miró, il y a toujours une sorte d'hésitation, mais d'hésitation profonde, très très sérieuse, entre extraversion, introversion. Vous voyez, je vais vers le monde, et en même temps, le monde c'est moi, c'est mon intérieur. C'est cette espèce de battement entre les deux qui fait les tensions, le côté électrique finalement à l'intérieur de ses propres images. C'est pour ça que parfois vous avez des images images qui sont extrêmement dessinées, où il y a un grouillement de petites choses, de petits mondes, d'insectes, d'animaux de toutes sortes, et puis d'autres qui sont aux frontières de l'informe, qui sont quasiment abstraites, mais qui ne sont justement pas de l'abstraction au sens où on l'employait à l'époque. Miro détestait cette idée qu'il soit qualifié de peintre abstrait, parce que elle dépeint, disons, le chaos intérieur.
Farangeville en France, 1939-1940, le retour au Baléares, 1941, mais dans une volonté de retrait et non pas d'extériorisation. Pendant la guerre, sa présence en Europe s'est éteinte, mais elle a beaucoup gagné aux États-Unis. Un de ses marchands, qui réussit mieux que Viau, c'est Pierre Matisse. Et il va jouer un rôle très très important dans la renommée qui devient mondiale de Miro. Et ensuite, son activité est démultipliée. Vous employez le mot détesté, vous n'allez pas utiliser le mot détesté concernant telle ou telle œuvre de Miro, mais à un moment, il y a des œuvres de certaines années d'après-guerre que vous avez eu du mal à comprendre, enfin à aimer.
Alors, non, pour ça, franchement, non, je dirais pas ça, parce que, simplement, il me semble que vous avez dit, vous voyez, que Miro était très méthodique, il s'est méthodiquement construit entre 1921 et 1940-41. Il y a 20 ans, comme ça, ça nous arrive à tous, hein, où on se forme, quoi, on dessine sa propre forme dans le monde, et c'est ce qu'il a fait. Alors, à partir de là, bon, bah, la suite, elle est lisible à partir de ce qui s'est passé auparavant, si vous
mais
voulez.
Mais c'est méthodiquement multiplié avec le succès alors, dans les années 60.
Alors ça, c'est oui, il y a un aspect comme ça, c'est-à-dire que effectivement, il y a un appel du marché. Bon, on lui propose des choses, il les fait. Hein. Mais en même temps, il y a toujours cette tentation de la destruction chez lui, de l'assassinat de la peinture, comme il disait, qui est aussi une forme d'autodestruction, mais une autodestruction, disons, dynamique, énergique. Miro est tout sauf un mélancolique. C'est quelqu'un qui est... Alors on peut dire qu'il est tragique par certains aspects, ce qu'on ne voyait pas tellement avant et que maintenant on comprend et qu'on fait plus résonner avec le monde contemporain dans lequel on est aujourd'hui. Mais il n'est pas mélancolique. Et donc il y a toujours cette volonté finalement d'aller au-delà de son œuvre et il finira sa carrière en brûlant ses toiles, hein, mais en montrant des toiles brûlées, disons. Ce qui était quand même un pied de nez terrible au marché.
Mais en faisant ouvrir sous son nom une fondation extraordinaire, ouais, à Barcelone... Une fondation qui porte un nom double à Palma, et la dernière fondation, c'est, je vous laisse prononcer le nom du village capital
Montreuil,
pour Miro.
Ouais, à Montroi, Montreuil, ou Montroi en français, oui, c'est ça. Les Catalans ont magnifiquement fait ça, la famille Miro l'a fait surtout, c'est-à-dire qu'ils ont créé une fondation qui nous permet de sentir précisément la terre de Miro, dans l'endroit même où il a passé toute sa vie, en fait, essentiellement.
Et sinon, Paris, le Grand Palais, deuxième grande exposition qui lui soit consacrée, et sinon, si vous n'allez ni en Catalogne ni à Paris, chez Azan, votre très beau livre, Miro, Un feu dans les ruines. Merci à vous, Rémi Labrusse. L'émission a été préparée par Aline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Loïc Frapsos à la technique, Liscom à la réalisation. Et vous n'avez pas peur d'aller dans des espaces extraordinaires, Mathieu Vidard. Encore un très vaste sujet, j'allais dire tellurique.
Une question simple, comment apprendre aujourd'hui au XXIe siècle,
voilà. Bah oui.
Avec François Taddeï, hein, qui a beaucoup d'idées sur la question.
La tête au carré.